Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Olivier Delors, professeur de mathématiques. À quel niveau ?
Je suis professeur dans le secondaire, mais je m'occupe aussi, là, spécifiquement depuis 4 ans, du parcours préparatoire au professorat des écoles, qui s'appelle le PPPE, et qui, en mathématiques, est destiné à former sur les concepts élémentaires que les futurs étudiants auront à enseigner à leurs jeunes élèves.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées.
Cet enseignement se fait au sein d'un lycée, là on est à Pau, au lycée Louis Barthoux, sous forme de cours de mathématiques. On reprend finalement, je dirais, trois grands domaines. Assurer les connaissances fondamentales sur des concepts simples, hein, de numération, les objets mathématiques élémentaires, de géométrie, de raisonnement. Et deuxième partie où on nous invite à travailler des éléments culturels et historiques, c'est-à-dire non pas uniquement parler par exemple de l'arithmétique, mais de donner un peu les conditions d'émergence historique, épistémologique de ces concepts, c'est-à-dire comment on a noté les nombres des systèmes unaires d'encoches sur le mur d'une grotte jusqu'à un système babylonien et les systèmes de numération contemporains.
Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux.
Vous faites ça dès la première année universitaire.
Oui, c'est dès la première année.
Et donc c'est une expérience un peu unique en France.
Il y a 20 parcours PPPE, mais c'est une expérimentation qui a commencé il y a 4 ans. Toute la question est de savoir si ça va se prolonger. Mais effectivement, c'est une expérimentation. Donc les étudiants ont une partie au lycée où ils retravaillent des matières polyvalentes fondamentales, on va dire. Ils sont adossés à une licence universitaire. Alors chez nous, ils suivent soit une licence de maths à l'UPPA, soit une licence de lettres. Et on a des groupes mixtes. Et puis ils ont des stages. Ils ont 3 semaines de stage en première année et 3 semaines de stage en deuxième année en école, où ils ont à la fois des observations et même ils commencent à piloter quelques activités en classe.
Mais pas en autonomie.
Pas en autonomie, avec des tuteurs, des maîtres de stage qui les suivent. Donc c'est très complémentaire entre une formation académique et une licence un peu spéciale et puis une polyvalence de matières, puisque c'est effectivement des gens qui seront amenés à enseigner toutes les matières.
On dit souvent, et je crois que c'est un fait objectif, que 80% des professeurs des écoles n'ont pas de formation initiale scientifique. Et là, vous avez donc des étudiants qui sont volontaires pour une formation multidisciplinaire.
Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que leur vocation première est d'être professeur des écoles. Et ils savent bien qu'ils seront amenés de manière polyvalente à enseigner les arts plastiques, les mathématiques, l'orthographe, l'histoire, que sais-je, l'EPS. Et donc, le parcours prend en compte ça et les fait affronter toutes les questions.
Au pupitre d'alors, quelque chose changea.
De manière un peu brutale, quel est votre constat sur le niveau en maths des étudiants que vous avez ?
Alors, il est multiple parce que nous, on a la chance de mixer des classes où il y a moitié des élèves qui suivent des études de maths universitaires, donc qui ont fait des premières spécialités, terminales spécialités en maths, et donc qui s'en sortent, en tout cas sur un niveau, je dirais, des mathématiques élémentaires jusqu'au début du lycée. Et on a une autre partie d'étudiants littéraires qui ont pu abandonner les mathématiques à la fin de la classe de seconde, et pour lesquels c'était difficile. Et c'est peut-être sur eux que l'effort ou les constats sont à faire. Je dirais qu'effectivement, il y a des élèves qui ont d'énormes difficultés sur des concepts aussi simples que les mesures, les fractions, les théorèmes de géométrie. Mais il y a ce recul, je crois, qui est dû à une forme de maturité, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont quitté les mathématiques avec des formes de délicatesse. Mais ça y est, ils ont 19 ans, ils veulent devenir enseignants. Ils savent que même s'ils n'aimaient pas les maths, on va le dire comme ça, ils vont devoir le transmettre. Ils savent bien que c'est une des matières fondamentales à l'école. Et donc, ce qui est extraordinaire en tant que professeur, c'est qu'il y a cette curiosité, cette volonté peut-être d'aller plâtrer, d'aller consolider, d'aller réparer tout ce qui était en difficulté pour eux dans leur vécu d'élève.
Est-ce que vous pensez que ce genre de formation doit être faite par des gens comme vous qui sont des professeurs du secondaire, éducation nationale, ou est-ce qu'il serait préférable que ça soit des universitaires ?
Bon, j'aurais envie, voilà, si vous me posez cette question quasi politique, je dirais que sans prétention, c'est intéressant que ce soit des professeurs de secondaire qui affrontent les difficultés des élèves de seconde, qui ont du mal à calculer, qui ont du mal à modéliser, qui ont du mal avec la matière dans les goûts, et qui ont donc des pratiques, un recul, une expérience didactique qui est propice à l'encadrement de ce type de jeunes. Je pense que c'est vraiment un plus.
La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin.
L'Académie des sciences s'est préoccupée de l'enseignement des sciences à l'école primaire. Et elle s'est inquiétée du fait qu'on sépare les maths des autres sciences à l'école primaire de manière un peu caricaturale. Quel est votre point de vue là-dessus ? Parce que quand même, on peut, à l'école primaire, on peut faire une dictée sur des thèmes scientifiques, on peut faire des maths en regardant le thermomètre.
Oui, c'est une idée aussi de faire ce cloisonnement encore plus dans les petites classes, mais je pense à tout niveau. Les maths, c'est l'étude des modèles. Donc, bien sûr, dès qu'il y a modélisation, il y a mathématiques. Mais modélisation de quoi ? Du monde qui nous entoure. Alors, il y a typiquement quelque chose que je trouve absolument passionnant à faire avec les étudiants de PPPE, qui est dans le texte de cadrage, qui est la fameuse mesure de la circonférence terrestre de d'Ératosthène. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils ont dû affronter même en première dans l'enseignement scientifique. Et comment, à partir d'angles avec les ombres, le gnomon, enfin, on connaît tout ça, les matheux, comment récupérer une grandeur inaccessible par les angles alternes internes qu'on ne peut pas, bien sûr, appréhender. Il y a plusieurs façons de faire ça, et ce que je trouve très intéressant, et peut-être ça répond un peu, ça prolonge votre question, soit on étudie déjà la figure avec la modélisation déjà effectuée. Et des fois, dans les manuels d'enseignement scientifique, la Terre est déjà dessinée, sphérique, et les rayons solaires sont déjà dessinés, parallèle. Et c'est loin d'être évident. Alors, justement, dans le cadre du parcours PPPE, je reprends les modèles spontanés des élèves et je leur dis, voilà, le jour du solstice d'été, à Alexandrie, il y a des courtes ombres, le soleil est haut dans le ciel, et à Sienne, il éclaire le fond du puits, il arrive verticalement. Est-ce que vous pouvez me faire un dessin qui explique ça ? Et quels sont les modèles ultra-majoritaires, alors qu'ils ont déjà peut-être rencontré cette figure ? Eh bien, c'est que localement, la Terre est plate, ce qui n'est pas du tout une idiotie. Et quand on lève les yeux au ciel un jour de coucher de soleil sur la plage, ou qu'on voit une lumière, bien sûr, on voit les rayons divergents, puisque une boule lumineuse va rayonner dans toutes les directions de l'espace. Mais on est si loin du Soleil qu'on peut les considérer comme effectivement parallèles. Et puis, vu qu'on veut calculer la circonférence terrestre à la fin, localement elle est plate, mais on va plutôt prendre une géométrie sphérique. Alors, ces deux hypothèses, platitude de la Terre, rayon divergent, vont faire que même on peut, Anaxagore, c'est une hypothèse d'Anaxagore, il avait mesuré par Thalès la distance Terre-Soleil, il trouve je crois 6500 km. Et si on prend les rayons parallèles et la Terre sphérique, là on peut faire les angles alternes internes, récupérer que l'angle que fait l'ombre avec le gnomon c'est un 50e, donc si la Terre ça sera 50 fois plus grand que l'arc entre Sienne et Alexandrie. Donc ce calcul-là, je trouve, est passionnant parce que je retrouve, mais même avec des matheux, et peut-être avec des adultes, si on fait cette modélisation, ben, on voit bien que ce que disait Bachelard, on a toujours plein de préjugés quand on affronte les sciences. Et là, bien sûr, on voit bien qu'à travers ça, il y a une modélisation mathématique, mais avant tout, il y a une observation du monde. Donc il ne faut surtout pas séparer science et mathématiques, et même aller avant même les calculs, avant même le travail des angles alternes internes, ou que sais-je, ou Thalès, aller essayer de faire la figure qui représente au mieux et critiquer le modèle 1, critiquer le modèle 2.
Alors, cette belle histoire qui est en effet passionnante, est-ce que ça passionne les élèves ? Réponse honnête, s'il vous plaît.
Réponse honnête. Je dirais déjà, plutôt que leur présenter une page de manuel avec le dessin déjà fait, de prendre le temps d'avoir dit cette phrase et qu'ils se racontent les images mentales et que tout le monde vienne dessiner sur sa feuille et que le professeur circule et repère les modèles platistes et les modèles sphériques et aille faire confronter les modélisations différentes au tableau et qu'on en rediscute, bon, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est passionnant, mais je pense quand même qu'il y a une mobilisation, en tout cas pour ces jeunes. Mais ça prend du temps. Souvent en didactique, en pédagogie, le temps perdu est peut-être un temps gagné. Parce que d'avoir laissé advenir peut-être les modélisations incorrectes, d'avoir compris pourquoi elles pouvaient être incorrectes, peut-être qu'ils s'en rappelleront mieux que d'avoir tout de suite ouvert un manuel et avoir fait les mathématiques qui étaient derrière les angles alternes internes.
Car nous étions tous pris d'excellence ex-éco, d'excellence ex-éco. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura.
Est-ce que vous avez l'occasion de parler avec vos collègues d'autres disciplines ?
Oui, on a un petit labo de maths dans le cadre là, du plan Villani-Torossian à Bartou. Donc on est vraiment un super lycée où il y a beaucoup de profs de maths, il y a des classes préparatoires. Un de nos axes de recherche, c'est la modélisation. Donc on a déjà fait des choses avec les physiciens, pas trop avec les biologistes, c'est peut-être plus difficile, mais avec les physiciens très souvent. On s'est retrouvés pour parler de... Pour parler de sujets, on a modélisé un feu d'artifice avec GeoGebra, avec un collègue de physique. On s'était posé la question de comment traiter les fonctions, les relations, le symbole d'égalité dans nos deux disciplines en classe de seconde. Non, ça, il y a des liens.
Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie.
Alors, vos étudiants, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont passionnés par l'enseignement ou parce qu'ils...
Ça, si on peut avoir un optimisme, c'est qu'il y a... Bon, et peut-être qu'elles seront déçues, mais il y a un vrai enthousiasme. Il y a des vocations. C'est des gens qui viennent ultra majoritairement avec l'envie d'être enseignant. Ça, c'est très net.
Est-ce qu'ils vont enseigner 24 heures par semaine, 6 mois par an ?
Je vois à quoi vous faites allusion. Là. Je ne ferai pas de commentaires, mais bon, ce métier est tellement... Voilà, quelle ignorance de ce que c'est que le métier d'enseignant.
Alors, ils seront professeurs dans 5 ans, quoi.
C'est ça.
Et donc, ils vont représenter une toute petite partie des professeurs des écoles, puisque la plupart d'entre eux ne suivent pas cette formation spéciale. Est-ce que l'éducation nationale va préparer ou... Une évaluation ? Quand est-ce qu'on va voir si ça a marché ?
On a été évalué, donc c'est un parcours expérimental. On a entendu des politiques imaginer que ça se généraliserait. Hein.
Oui, mais justement avec la question de savoir si ça serait généralisé plutôt éducation nationale ou plutôt universitaire. C'est ça le grand...
Oui, c'est sûr, c'est ça
le...
Alors, on est au cœur. Alors là, c'est vrai que je plaidais pour notre paroisse, même si c'est pas bien de le dire. Mais c'est tout à fait... Bon, je plaidais pour qu'il y ait une part importante de l'éducation nationale pour les raisons didactiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça a été évalué en termes de ressenti des étudiants, de ressenti des équipes par l'inspection générale. Il y a eu un rapport là en juillet dernier sur les PPPE, donc sur les 20 parcours qui ont été créés, donc 20 fois des promos de 35 qui suivent sur L1, L2, L3. Effectivement, le juge de paix, ce serait leur admission au CRPE. Est-ce que la cohorte des gens qu'on a formés ont eu dans de bonnes conditions le CRPE ? Ça, on ne le sait pas encore. Ça serait la vraie évaluation, en tout cas pour les étudiants.
CRPE pour nos auditeurs ?
Pardon, c'est le concours de recrutement pour le professorat des écoles. Là, ça sera vraiment l'évaluation. En tout cas, pour les étudiants aimeraient avoir choisi ce parcours, c'est avoir leur concours dans de bonnes conditions. Mais je ne crois pas que le fait qu'ils aient fait beaucoup de stages, qu'ils aient déjà enseigné, observé, étaient accompagnés par des maîtres de stage. Et ce que je n'ai peut-être pas dit, donc on a évoqué des questions un peu d'histoire des maths, de mathématiques, mais il y a déjà des parties didactiques, des parties didactiques, d'initiation à la didactique des mathématiques, dans le sens où on va examiner par exemple des situations problèmes qu'on fait à l'école et on va leur proposer, ce qui était le cas dans les anciens concours de CRPE, des procédures d'élèves. Et analyser les stratégies de résolution des élèves, voir les erreurs, pour quelles raisons elles sont faites, cette logique des erreurs, c'est déjà les mettre dans un positionnement de réflexion. Je crois qu'on comprend jamais aussi bien que les maths qu'on enseigne quand on les anciennes, justement, qu'on est confronté à un retour d'élèves qui a ses modèles spontanés, qui commet ses erreurs, qui propose une idée à laquelle on n'avait pas pensé. Donc ça, c'est déjà travaillé dans le parcours. Donc je dirais, au-delà du fait qu'on espère qu'ils aient le concours, on espère surtout avoir formé des jeunes qui, dans leur métier, seront un peu plus compétents en mathématiques, et notamment pour les étudiants qui avaient du mal en maths dans leurs études de secondaire et qui n'étaient pas passionnés par la matière.
Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie.
Qu'est-ce que vous pensez de la réaction majoritaire, me semble-t-il, du monde enseignant, qui est contre cette réforme de la formation des professeurs des écoles?
C'est des raisons plus politiques. Peut-être on peut en examiner certaines. Il y a une vraie question de garder peut-être un niveau académique, c'est-à-dire un niveau de professionnalisation. Là, les professeurs des écoles ont l'équivalent Master 2, avec au moins une licence universitaire. Il y avait peut-être cette crainte que si c'est uniquement les matières du secondaire revisitées, ce soit peut-être insuffisant. Moi, je suis peut-être assez d'accord qu'il faut quand même être exigeant et que le parcours PPPE, là, cette expérimentation, assure cet équilibre, je trouve, c'est-à-dire entre le fait de reprendre les bases, mais aussi de se confronter à une licence universitaire et d'avoir une vraie masterisation. Une descente du concours en L3, avec peut-être un bachotage pendant la L3, c'est finalement avoir un bac plus 2, en quelque sorte, de formation post-bac. Donc il y a cette crainte-là de dégradation.
Mais est-ce que je comprends bien que le concours en L3 ne signifie pas qu'on est professeur des écoles le lendemain ? Le L3 concours à la fin du L3.
Et puis après,
est suivi par deux années de formation.
De formation.
Tout à fait. Et donc, y compris rémunéré.
Et y compris rémunéré, ce qui serait une bonne chose. Mais j'essaie d'évoquer ce que pouvait être des objections. Voilà, bon, c'est vrai que, étant partie prenante du projet, j'y vois tellement d'avantages.
Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail dans ce cadre précis?
C'est un peu une chance locale, parce qu'on a eu un proviseur et une équipe de collègues, un écosystème palois, avec beaucoup de liens, notamment avec le labo de maths de notre lycée. Et pour le coup, ça a été assez naturel, quand il y a une proposition, de trouver des lieux d'accueil de ces PPPE. On s'est positionné là, entre le lycée Bartou, l'UPPA, il y avait beaucoup de liens. Il y avait aussi peut-être la quête de sortir des grandes métropoles et d'avoir un aménagement du territoire où on laissait la chance à des villes plus moyennes d'accueillir ces parcours. Pour le coup, là, dans le Grand Sud-Ouest, du côté de l'Académie de Bordeaux, c'est nous. Mais ça a été, comme souvent, des gens un peu remarquables qui ont œuvré. Notre ancien proviseur, M. Rottier, des collègues universitaires et puis les équipes locales d'enseignants qui étaient extrêmement motivées par le projet.
Le cancre fit alors sa réapparition. Le front aime est redevenu l'exception. À la fin de la
nuit. J'entends dans votre élocution, c'est beaucoup d'enthousiasme. Et d'espoir, on peut dire, pour ce beau métier.
Oui, c'est évident qu'entre le. Je ne suis pas assez institutionnel, je n'ai pas assez de recul pour juger des qualités, des formations. Mais ce qui est clair, c'est que. L'œuvre d'enseigner se transmet comme une flamme de génération en génération, et il y a toujours des jeunes qui ont cette vocation et qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de comprendre et qui ont envie d'être de très bons professionnels. Et il faut savoir il faut que l'institution scolaire, la France, investissent dans la formation de ses enseignants. C'est absolument central.
Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Bien. Je rajoute parfois de la musique dans mes podcasts. Vous aimez la musique? Et si oui, laquelle?
J'adore. Ça me vient comme ça, la chanson de Brassens, La maîtresse d'école.
La version que vous avez entendue est chantée par Maxime Le Forestier.
Les méthodes avancées, comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas. Où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.